Vous avez médité la semaine dernière sur les premiers versets du chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, où justement l'évangéliste a pris le soin d'inscrire Jésus dans la longue continuité d'une généalogie humaine. Jésus-Christ, commence Matthieu, fils de David, fils d'Abraham, fils de la promesse faite à Abraham, et héritier du trône royal de David. C'est donc à l'avènement d'un nouveau roi, d'un nouveau royaume et d'un nouveau règne que Matthieu nous convie en entrant dans son évangile. Et pour nous dévoiler l'ascendance de ce roi et de son peuple, Matthieu introduit toute une galerie de noms, une galerie de portraits. Et nous y trouvons des femmes, des hommes, des rois et des inconnus, des juifs et des non-juifs. Signe qu'à travers cette destinée particulière d'Israël, c'est bien l'humanité tout entière qui était concernée par les projets de Dieu. Comme un écho de l'alliance faite à Abraham en Genèse 12, qu'en s'attachant à un homme et à sa descendance, c'est bien tous les peuples de la terre qui serait béni à travers lui. Jésus est donc celui qui, à travers les aléas des générations, récapitule l'histoire de ce peuple. Et à travers ce peuple de l'humanité tout entière, et plus encore, l'histoire de la fidélité de Dieu avec ce genre humain. En effet, s'arrêter au parcours des hommes et des femmes qui se cachent derrière cette liste de noms, c'est bien découvrir un Dieu souverain et miséricordieux qui essaye de tracer des lignes droites, de conduire un plan avec des cœurs tortueux et tordus. À travers les alliances successives, nous relisons ce dessein unique qui, depuis la chute d'Adam et Ève, attache Dieu à une humanité fragile et faible. Stérilité, conflit, jalousie, adultère, meurtre, exil, déportation, tragédie personnelle ou collective ont émaillé cette généalogie. Autant d'heures tour à tour sombres et lumineuses où se retrouve un fil à la fois ténu et persistant qui relie toutes ces destinées. Fil rouge de la détermination de Dieu à écrire une histoire d'amour avec une humanité marquée par le péché. Mais si Matthieu inscrit ce roi dans la continuité du temps, il indique aussi l'idée d'un commencement. Une page semble se tourner, une nouvelle commence à s'écrire. Matthieu 1:1, livre de l'origine de Jésus-Christ, littéralement de la genèse de Jésus-Christ. Écho de ce premier commencement du livre de la Genèse où Dieu nous révèle la création de l'homme. En filigrane, Matthieu suggère que la création d'un nouvel homme et d'un nouvel ordre est à l'œuvre. Et puis au verset 18, en exergue de la section qui nous concerne ce soir, Matthieu va reprendre la formule. Voici quelle fut l'origine, littéralement, la genèse de Jésus-Christ. Indice là aussi discret, mais parlant d'une double origine, d'une double genèse, d'une double paternité pour ce fils, à la fois issu des hommes et... C'est justement cet autre engendrement que je vous propose de découvrir à la lecture des versets 18 à 25 que nous allons méditer ce soir. Et donc je lis dans la seconde 21 à la page 1071 pour ceux qui voudraient suivre dans vos Bibles. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance ou la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici, notre lecture. Nous venons de l'entendre, ce Jésus-Christ n'est pas comme les autres hommes. Il a aussi pour origine Dieu lui-même, engendré par le Saint-Esprit. Nouvel écho au livre de la Genèse où l'Esprit, le souffle de Dieu, tournoyait au-dessus de ce chaos informe et vide pour donner naissance au monde. Oui, il y a bien quelque chose d'une nouvelle création qui advient dans l'engendrement de ce nouvel homme. À la lecture de ces versets, j'étais frappé par un autre parallélisme entre deux expressions dans un intervalle très court. Verset 21, « Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus. » Verset 23, « Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. » Deux mentions qui renvoient toutes deux à la naissance d'une seule et même personne, Jésus-Christ, mais qui dévoilent deux noms différents. Jésus et Emmanuel. Avec à chaque fois le développement explicatif de ces noms, un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés, et puis un fils qu'on appellera Emmanuel, ce nom signifie Dieu est avec nous. Deux noms pour un même homme. Jésus, traduction grecque du nom hébreu de Josué, qui veut dire justement littéralement « Dieu est le salut » ou « Dieu sauve » ou « Ô sauve Dieu ». Et puis Emmanuel qui lui reprit de l'hébreu « Imanou avec nous » auquel est accolé le suffixe « El », un des noms de Dieu. Donc très littéralement « Dieu avec nous ». C'est donc avec ces deux noms que j'aimerais essayer de dire quelques mots ce soir. Et dans un premier temps, je vais essayer d'éclairer le sens de ces deux noms pour ensuite nous inviter à réfléchir à la façon dont nous les articulons dans notre vie spirituelle. Alors Paul l'a introduit déjà tout à l'heure dans sa présidence, cette notion de « entrer dans la présence de Dieu ». Et c'est une affirmation classique de notre compréhension du péché que de dire qu'il implique et entraîne la séparation d'avec Dieu. Si on regarde ça du côté de l'homme, vivre dans le péché, c'est choisir l'éloignement. C'est délibérément se détourner de Dieu pour se tourner ailleurs, vers un autre que lui. Si on regarde ça du côté d'un Dieu saint qui ne peut supporter le péché, être chassé loin de lui est justement le signe du jugement de Dieu. Pensons à Adam et Ève, justement, après la chute, chassés du jardin, puis à Caïn, suite au meurtre de son frère, qui sera condamné à cette vie errante et vagabonde. Mais si cet éloignement est signe du jugement de Dieu, il y a aussi quelque chose de la grâce qui pointe. Nous pourrions lire aussi cet éloignement comme le signe d'une extrême bienveillance de Dieu. Éloigner le pécheur de sa présence, c'est ne pas l'exposer à la destruction immédiate qu'impliquerait un contact trop proche entre un Dieu saint et un pécheur. Je renvoie à toutes les précautions instaurées par Dieu dans le livre de Lévitique, dont Paul nous a déjà parlé, à toute cette médiation compliquée des prêtres et des sacrifices qui organisaient justement la façon dont un pécheur pouvait s'approcher de Dieu. Ceux qui ont enfreint ces règles l'ont payé de leur vie. Souvenez-vous par exemple des fils d'Aaron qui se présentèrent justement devant l'Éternel sans avoir respecté ce qui leur était ordonné. Lévitique 10, verset 2, instantanément, une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Et ce commentaire de Moïse à Aaron qui vient de voir disparaître ses deux fils là sur le champ, nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré « Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi. » Rencontre impossible, rupture, divorce, éloignement, exil, autant de mots, autant de concepts que Dieu donnera à tous ses prophètes pour signifier cet état de séparation qui blesse de façon si profonde le cœur amoureux de Dieu. Mais si nous considérons cet autre nom, le nom d'Emmanuel, c'est une toute autre tonalité que nous entendons. C'est entendre le don merveilleux de la présence de Dieu, la grâce d'un Dieu proche, la grâce d'un Dieu qui se fait compagnon, ami, qui marche au milieu des hommes, parmi nous, avec toi, avec moi, quel que soit notre quotidien. Vous entendez la tension ? En raison même de ce que nous avons de dire de notre éloignement de Dieu, nous entendons déjà à quel point le don d'Emmanuel est un signe de grâce, aussi miraculeux qu'improbable. Oui, quel évangile, quelle bonne nouvelle qu'Emmanuel, que ce Dieu dont la gloire et la sainteté haïssent le péché, choisissent de poser sa tente, de tabernacler, comme nous l'a dit Paul tout à l'heure, au milieu du peuple des pécheurs. Quelle grâce qu'Emmanuel ait accepté de se faire frère et descendant de cette généalogie marquée par le péché, mais qui, de l'autre côté, comme nous l'avons vu ce soir, y entre aussi engendré, conçu, d'une autre source, porteur d'une humanité sans corruption, parce que conçu par le Saint-Esprit. Avec cette autre origine, Emmanuel, Dieu avec nous, rejoint l'homme dans son errance, dans son éloignement, pour lui tendre et lui annoncer son autre nom, Jésus, Dieu sauve. Ce salut, vous le savez, consistera à prendre sur lui le jugement qui nous chassait loin de Dieu, pour nous tendre en échange cette humanité sans péché dont Matthieu nous a présenté la Genèse, le commencement. Oui, Emmanuel n'est pas possible sans Jésus, du côté de Dieu comme du côté de l'homme. Mais essayons de regarder maintenant comment articuler ces deux noms dans nos vies. J'ai été frappé dans quelques lectures récentes par cette remarque d'un accompagnateur jésuite qui illustre la réalité souvent boiteuse de notre vie spirituelle. Je le cite. Beaucoup de chrétiens sont conscients de leurs fautes et de leurs défaillances. Mais il leur manque la certitude d'être vraiment aimés. Inversement, nombreux sont ceux qui savent en leur cœur que Dieu les aime, vraiment et pleinement, et qui vivent de cette certitude. Mais là encore, même s'ils confessent des lèvres qu'ils sont pécheurs, beaucoup n'en ont pas une conviction vivante et vraie dans leur cœur. Quand ils prient pour la conversion des pécheurs, c'est aux autres qu'ils pensent. Ceux qui vivent l'expérience d'être aimés de Dieu personnellement et sans réserve, et celle d'être pécheurs dans le plein sens du mot, sont finalement assez rares. Fin de citation. Alors que ces pensées trottaient dans ma tête, j'ai été aussi interpellé par une autre lecture, celle d'un psychanalyste qui s'appelle Jacques Arène, qui est un psychanalyste chrétien, et qui lui relève ce même clivage entre culpabilité et amour. Mais cette fois-ci dans l'évolution de la perception chrétienne du péché. Pour le résumer, en 50 ans, nous sommes passés d'un discours sur le péché qui trahissait souvent un désamour de soi et qui empêchait souvent les personnes de progresser à son contraire. En effet, à cet excès de la culpabilité répond maintenant l'idéologie de l'épanouissement de soi dans l'amour de Dieu. Pour reprendre et le reformuler dans nos catégories de Matthieu 1, c'est passer de Jésus sans Emmanuel, une spiritualité centrée sur le péché, sur la faute et la culpabilité, à Emmanuel sans Jésus, une spiritualité un peu rose-bonbon, où ce Dieu avec moi me fait du bien et n'aurait d'autre objectif que de développer mes potentialités, mes aptitudes, mes capacités, tableau dans lequel il devient de plus en plus inconvenant d'oser parler du péché. Et à Rennes de conclure, le monde chrétien a perdu contact d'une certaine manière avec la question du mal, au sens spirituel du terme. Dans notre culture, poursuit-il, il est bon de désigner des responsables, mais l'on perçoit de moins en moins que la ligne de démarcation entre la haine et l'amour passe dans le cœur de chacun. Nous aimons à cerner et à identifier des responsables, à distinguer les bons des méchants, les harceleurs et les victimes. Fin de citation là encore. Alors que faire de ces constats? Comment équilibrer ce balancier qui nous fait osciller de la culpabilité qui peine à reconnaître l'amour de Dieu à l'aveuglement sur notre péché, comme un peu ébloui dans l'amour éthéré et planant de Dieu? Comment vivre et l'amour et la grâce d'Emmanuel, Dieu avec nous, en l'articulant avec Jésus, il me sauve de mes péchés. Et pas seulement me protège de ceux des autres ou me guérit des blessures que les autres m'infligent, avec tout ce que ça entraîne derrière, vous pouvez l'imaginer. Essayons de chercher quelques pistes pour répondre. Il me semble que la première, c'est accepter le premier nom de ce Fils, le nom de Jésus. Il nous sauve de nos péchés et assumer le caractère personnel de ce salut. Il me sauve de mon péché. Et d'entendre à quel point nous avons besoin d'Emmanuel, d'un Dieu que nous savons avec nous, pour pouvoir entrer dans cette réalité que Jésus cherche à nous offrir, à m'offrir, me sauver de mon péché. Les évangiles nous dévoilent Emmanuel, cet homme capable de manger, de faire bonne chère avec les pécheurs, quels qu'ils soient et tels qu'ils sont, les prostituées, les voleurs, les escrocs, ou même tous ces pécheurs ordinaires que Jésus a rencontrés tout au long de son ministère. À tout cela, Emmanuel a eu à cœur de présenter Jésus, celui qui sauve et rend librement capable de changer. C'est en prenant la mesure de ce Fils envoyé du Père pour sauver et non pour juger que chacun peut poser devant Dieu la réalité de son cœur pécheur. Il est pratiquement impossible de reconnaître sa faute quand on ne sait pas si après en avoir fait l'aveu, on sera encore accepté, aimé. Il nous faut bien tout l'engagement d'Emmanuel, d'être et de rester avec nous, pour que Jésus puisse rencontrer mon péché et que j'ose le lui confier. Nous avons besoin d'être aimé pour prendre conscience de nos fautes, besoin d'être aimé pour vraiment découvrir l'étendue de nos culpabilités. Nous pouvons regarder courageusement notre péché à la condition de croire ou au moins de pressentir que l'amour dont nous sommes aimés sera toujours plus grand que notre faute. Il faut que demeure ancré dans notre cœur et dans notre conscience que là où le péché foisonne, la grâce surabonde, comme le dit Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20. Il faut que demeure ancré dans notre cœur et dans notre conscience que la démesure de l'amour de Dieu sera toujours plus grande que la démesure de notre folie dans le péché. Cette disposition de confiance est d'autant plus possible que ce Jésus n'a pas seulement opérer le salut, mais qu'il a garanti ce salut par son propre sang, pour en faire une alliance. Ceci est mon sang, dira Jésus en instituant la Sainte Cène, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés, Matthieu 26, 28. Et ce lien de l'alliance est quelque chose de tellement important, parce que justement ça crée cet espace de sécurité où l'on peut s'ouvrir à l'autre et être véritablement soi-même dans l'engagement d'un lien qui dure. On peut là y être vulnérable sans avoir à essayer de sauver les apparences. On ne se perd pas dans le jeu des images, des séductions. On ose se mettre à nu. C'est la différence, si on reporte ça à la question du mariage, entre un concubinage, pardon, et justement une alliance de mariage. Si dès que tu découvres un peu plus concrètement qui je suis, je sais que je cours le risque de la rupture, je vais hésiter à te dire vraiment justement ce que sont mes zones d'ombre, et puis je vais essayer de continuer à produire le paraître. Si par contre je sais que notre union est garantie par la solidité d'une alliance que nous avons contractée ensemble et jusqu'au bout, alors oui, cette transparence en vérité, elle sera possible, parce que justement la vérité ne la menace pas. Fondée dans l'amour d'Emmanuel, c'est donc une grâce que nous devons apprendre à demander, que cette intime et vivante conviction de se sentir pécheur et d'offrir ce péché à Jésus, au Dieu qui sauve, en Jésus et par Jésus. Et pour illustrer cette réalité, ce propos, j'aimerais vous raconter une belle histoire que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire de Jérôme. ce père de l'Église, qui vivait au IVe siècle, après Jésus-Christ, et qui est connu dans l'histoire de l'Église pour avoir, entre autres, traduit les textes hébreux et grecs pour nous offrir la Bible en latin, la Vulgate. Cette histoire relève probablement plus de la légende que de la stricte réalité historique, mais elle n'en est pas moins riche de sens pour nous. Je vous la lis. Jérôme, sur ses vieux jours, adopta une vie d'ermite, non loin de Bethléem. On sait moins que dans sa jeunesse, il avait tenté de vivre en ermite dans un désert de Chalcis en Syrie. Pendant cette période, le jeune Jérôme tomba dans une profonde dépression, signe évident qu'il n'était pas encore appelé à ce genre de vie. Alors qu'il était au fond du désespoir, le Seigneur lui serait apparu en croix. Aussitôt, Jérôme se jeta à genoux et se mit à se frapper la poitrine avec véhémence. Jésus, sur sa croix, lui sourit gentiment et lui demanda « Jérôme, qu'as-tu à m'offrir ?» Jérôme lui répondit aussitôt avec joie « Tout Seigneur est d'abord la solitude de ce désert qui est si dur pour moi. » Le Seigneur le remercia gracieusement et lui demanda « Et qu'as-tu encore à me donner ?» Sans hésiter, Jérôme répondit « Mon jeûne, ma faim et ma soif. » Il ajouta même une petite précision, il ne mangeait ni ne buvait jamais avant le coucher du soleil. Jésus, sur sa croix, lui exprima avec toute sa sympathie combien il appréciait ce geste. Après tout, il avait eu, lui aussi, une certaine expérience du jeûne dans le désert. Le Seigneur répéta plusieurs fois sa question. « Qu'as-tu d'autre à m'offrir, Jérôme ?» Et Jérôme n'était jamais pris de court. Parfois même, ses réponses étaient assez circonstanciées. Ses nuits de veille, la prière des psaumes, la lecture de l'Écriture. À chaque fois, le crucifié le remerciait d'un sourire, mais renouvelait sa question. Et Jérôme, de donner encore de nouvelles réponses. Le célibat que j'essaye de vivre aussi bien que je peux, le manque de confort en cet endroit désolé, la chaleur durant le jour et le froid durant la nuit. Mais Jésus insistait toujours. Alors Jérôme, à bout d'arguments et de guerre lasse, rendit les armes, profondément déçu parce que le Seigneur ne se trouvait pas encore satisfait. Même après une liste aussi impressionnante de sacrifices héroïques. Il y eut un grand silence dans l'ermitage et dans tout le désert de Syrie. Jésus, regardant Jérôme avec beaucoup d'amour, lui dit « Il y a une chose que tu as oubliée, Jérôme. Donne-moi aussi tes péchés, que je puisse te les pardonner. » Comme Jérôme, nous voulons donner à Dieu ce qui nous valorise, ce que nous faisons pour lui, ce qui dépend de nous, ce dont nous avons l'initiative, plutôt que de lui donner ce qui nous humilie, ce devant quoi nous sommes impuissants, ce dont vraiment, littéralement, nous devons être sauvés, parce que ce n'est pas de notre ressort, ce qui est hors de notre portée. Or, la chose la plus importante, c'est bien celle que je ne peux pas faire moi-même. C'est celle que Dieu est venu donner, accomplir. C'est celle que je dois recevoir. Et c'est vrai que dans ce temps de Noël où on se demande ce que nous pourrions offrir aux uns et aux autres, et peut-être même à Dieu, ça peut nous paraître un peu inconvenant de dire « Oui Seigneur, c'est finalement ça que j'ai à t'offrir. mon péché pour que tu m'en sauves. Mais y aurait-il finalement plus beau cadeau pour Dieu que ce soit que ce don de votre état de pécheur pour la première fois pour recevoir le salut, la vie nouvelle, ou que ce soit dans ce chemin difficile et long de la sanctification, offrir mon péché pour que Dieu me donne cette humanité nouvelle, ce qu'il a justement donné en engendrant ce Fils par l'Esprit Saint, c'est un homme sans péché. Y a-t-il quelque chose de plus beau que nous pourrions offrir à Dieu? Jusqu'au bout de notre vie chrétienne, nous aurons besoin de nous reposer cette question devant Dieu. Qu'attendons-nous de Noël? Jusqu'au bout, nous aurons besoin de recevoir ce Fils dans la gloire de ses deux noms, Emmanuel et Jésus. Recevoir l'amour, l'engagement miraculeux d'Emmanuel avec nous pour recevoir Jésus et son œuvre, le salut concret, vivant, efficace, total de mes péchés pourvu qu'ils soient confessés. Ce nom d'Emmanuel avec lequel Matthieu ouvre son évangile en citant Ésaïe 7, 14 au chapitre 1, vous l'avez peut-être entendu, a pour sujet « on », un pronom indéfini. « On » l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Après que Jésus ait pleinement accompli son nom, en sauvant son peuple de ses péchés à la croix de Golgotha, après qu'il soit ressuscité des morts, comme ce nouvel Adam, comme ce nouveau principe de l'homme, comme ce nouveau chef d'humanité, comme cette genèse d'une ère nouvelle, Matthieu a choisi de refermer son évangile en nous faisant entendre le nom d'Emmanuel à la première personne. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à son nom glorieux. Amen.